Le chemin des estives. Certains vont chercher le bonheur en Sibérie ou en Alaska. Moi, je lorgne du côté d'Aubusson, de Saint-Flour et du plateau de Mille Vaches. La fugue. Une fois par an, nous étions réglés comme des montres suisses. Chaque 21 mai, en effet, la tradition exigeait qu'on se téléphonât. Pour rien au monde, nous n'aurions manqué ce rendez-vous. La fidélité à ce coup de fil ne se discutait pas. L'amitié est une liturgie. Elle réclame des célébrations, des commémorations. Raphaël et moi pratiquions cette religion de la mémoire avec ferveur. Ce jour-là, après les salutations d'usage, la conversation tournait au pèlerinage dans le passé. Nous rembobinions nos vies, nous nous souvenions. C'était en 1996. Jacques Chirac était président de la République. Sa jovialité et sa classe décontractée avaient tiré le pays de la torpeur bourgeoise des années Balladur. Pendant l'hiver, une ambiance de kermesse s'était répandue dans Paris après que les bottes de Juppé eurent jeté les gens dans la rue. Nous vivions encore sous l'ancien régime. Internet balbutiait, les téléphones portables n'existaient que dans l'imagination d'ingénieurs fous. Les existences se déroulaient sans texto, ce qui n'était ni sans charme, ni sans désagrément. Ainsi, quand nous devions compter Fleurette, il fallait franchir la douane des parents. « Bonjour, madame. Pardon de vous déranger. Pourrais-je parler à Camille, s'il vous plaît ?»« De la part de Charles. » Le top 50 passait en boucle les chansons d'Oasis, de Doc Gynico et Lemon Tree, le tube des Fool Gardens. Raphaël et moi avions 14 ans. Notre amitié avait éclos sur les bancs d'une école maternelle du quartier Mouffetard. Elle s'était épanouie aux arènes de Lutèce, où nous gambadions sur les pelouses interdites sous les coups de sifflet de gardiens en uniforme. Puis, scellés dans la fumée des premières cigarettes, des Ariel Menthol allumés au Square Barry, sur le pont de Sully, où nous regardions couler la Seine et notre enfance perdue. En mai, notre collège avait imaginé un séjour linguistique en Allemagne. La classe avait échoué à Eschwege, une grosse bourgade dans le Land d'Hesse, au centre du pays de Goethe. De cette semaine de liberté, je ne revois que le nuage de fumée de nos clopes, les effluves des pintes que nous vidions comme de la limonade, les soirées en boîte de nuit et les sourires angéliques des jeunes Allemandes dont nous nous étions enjuponnés. Raphaël avait conquis le cœur d'une certaine Catherine, blonde comme les blés. Mon amoureuse, elle, s'appelait Eva. Oh, les Allemands y font de beaux bébés. Eva faisait deux fois ma taille. Elle avait 17 ans et moi 14. Le retour à Paris après ce bain de folie parut un peu fade. Nous nous sentions à l'étroit dans nos familles, nous traînions notre désespoir amoureux. Nos fiancés nous avaient fait tourner la tête. L'idée d'une fugue s'imposa à la faveur de ce climat. Pendant quelques jours, nous hésitâmes sur la destination. Certes, nous avions laissé une partie de nous-mêmes en Allemagne. Finalement, nous cédâmes aux appels du cœur. Eschwege s'imposa. Pendant le cours de latin, je fis passer à Raphaël cette question griffonnée à la hâte sur un bout de papier. « On part demain ?» Ce mot scella notre sort. Le lendemain matin, la gorge nouée, nous étions en gare de l'Est. C'était un 21 mai. Notre train pour Francfort partait à 8h57. Seul Yvan, un copain de classe, était au courant. Je le revois sur le quai, venu nous dire adieu. Avec l'argent dérobé à nos parents, nous avions à peine de quoi payer nos billets. Yvan compléta de sa poche. Le trajet fut une longue patience. Nous le passâmes dans le wagon fumeur, enchaînant les cigarettes et les rires forcés. Nous allions vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, mais à la gare de Forbach, le train s'immobilisa longuement. Ce délai nous parut suspect. Une escouade de gendarmes accrédita cette inquiétude. En les voyant monter à bord, nous comprîmes qu'ils étaient à nos trousses. Le TGV s'ébroua avant que nous pûmes en descendre. Notre cœur battait la chamade. Nous étions pris. Quand trois agents d'Interpol pénétrèrent dans le wagon, nous tentâmes une dernière manœuvre. Comme les Dupont dans les albums de Tintin, nous déployâmes des journaux pour dissimuler nos visages. Évidemment, à la vue des titres de presse, les forces de l'ordre foncèrent droit sur nous. Nous fûmes sèchement débarqués à la gare de Sarrebruck. À la gendarmerie où nous attendîmes avec inquiétude la venue de nos parents, un trafiquant de stupéfiants, le corps plein de tatouages, se prit d'affection pour nous. « Moi aussi, dit-il à larme à l'œil, j'ai commencé comme vous. » Enfin, après d'interminables heures d'attente, le commissaire nous annonça l'arrivée des familles. On s'attendait à recevoir une dérouillée, on eut droit à des embrassades et un dîner au restaurant. Puis, la voiture du père de Raphaël fila sur l'autoroute dans la nuit noire. L'autoradio crachait du Billy Paul. Sa voix envoûtante recouvrait nos silences. Depuis cette escapade, la Seine a coulé sous le pont de Sully. Jacques Chirac est mort. J'arrêtais de fumer. Les adolescents se trémoussent sur des tubes que je ne connais plus. Et quand leur cœur saigne trop, ils ne prennent plus le train, mais ouvrent WhatsApp ou envoient un mail. Les temps ont changé. Raphaël et moi avons grandi en sagesse et en taille. Chacun a tracé un sillon. Lui est devenu une vedette de cinéma, comme disait ma grand-mère. L'avenir spirituel m'a fait de l'œil. J'ai écumé les noviciats, les monastères, les ermitages, donnant à ma courte vie une forme zigzagante. Dans le fond, depuis cette bravade en culotte courte, ai-je jamais fait autre chose que partir m'échapper, m'en aller, rejouer sans cesse cette scène inaugurale. Je me suis toujours sentie de mèche avec les gens qui enferment leur vie dans une valise et qui s'en vont. Décidément, le Massif central était la solution. J'ai senti qu'il me serait bon de revoir ce coin de France et je suis partie sur le chemin des estives.